donc, ma présentation va être passablement différente des autres aujourd'hui, dans la mesure où, plutôt que vous parler des défis liés à la structure, aux réformes de l'ONU, liées à la mission de l'ONU, je vais vous parler donc de questions plutôt géopolitiques liées à ma région de prédilection, qui est l'Asie du Nord-Est. Donc, parmi tous les défis de demain pour la communauté internationale, l'un des plus délicats sera certainement de s'assurer que les profonds changements géopolitiques qui s'effectuent dans la région et que tous les points chauds qui affectent la région ne dégénèrent pas et n'affectent pas l'extraordinaire dynamisme économique et la prospérité de la région. Donc, pourquoi est-ce une question importante? C'est l'Asie de l'Est, comme on le sait, c'est de plus en plus la locomotive économique du monde. C'est cliché, mais c'est vrai. Et également, il y a une influence politique de plus en plus grande de la région, de l'Asie du Nord-Est. Non seulement, principalement en fait, avec l'émergence de la Chine, le président Xi Jinping qui... visiblement veut que la Chine joue un rôle de plus en plus accru, qui est à s'attirer des problèmes avec ses voisins, ce qui est une approche quand même assez différente de ses prédécesseurs, donc Hu Jintao et Jiang Zemin. Donc les changements politiques que l'on voit en Asie du Nord-Est, évidemment, à part la montée de la Chine, qui est le développement le plus important, il y a l'évolution quand même assez importante de la politique de sécurité du Japon, récemment, qui a réinterprété sa constitution pour permettre un plus grand rôle à ses forces d'autodéfense. Également, évidemment, il y a ce qu'on appelle communément le pivot américain vers l'Asie, le rééquilibrage, qui va provoquer, qui provoque déjà, une plus grande présence non seulement militaire, mais également économique et politique des États-Unis en Asie. Parmi les nombreux points chauds de la région également, il y a de très nombreuses disputes territoriales, entre autres les îles Senkaku entre le Japon et la Chine, qui appellent ces îles-là Diaoyu. La mer de Chine méridionale, qui est un problème très, très actuel et assez chaud. Évidemment, également la Corée du Nord, avec toute la question nucléaire, humanitaire, etc. Ce sont tous des enjeux d'importance réellement capitale, parce que, en fait, pour la stabilité et la prospérité régionale. Maintenant, quel est le rôle que l'ONU et le Conseil de sécurité peut jouer dans cette région? Bon, la réponse courte, c'est qu'en termes macro-géopolitiques, si vous me permettez l'expression, c'est quand même assez limité à cause, entre autres, du fait que les grandes puissances rivales du Conseil de sécurité, en l'occurrence les États-Unis et la Chine, sont directement impliquées dans la région et dans ces conflits. Mais il y a quand même certaines sphères précises où certaines agences ou instances de l'ONU peuvent jouer un rôle pour atténuer les tensions. Et je vais vous parler donc aujourd'hui de deux de ces problèmes, c'est-à-dire d'abord la mer de Chine méridionale ainsi que la Corée du Nord. Donc la mer de Chine, je vous dirais à l'heure actuelle que c'est clairement, à mon sens, le point le plus chaud d'Asie de l'Est, en incluant le Nord-Est et le Sud-Est. Et ça risque de demeurer un point chaud pendant très longtemps, pour plusieurs raisons, parce que la Chine ne semble pas prête à faire de compromis, et les États-Unis, de leur côté, ne veulent pas laisser la Chine continuer les opérations qu'elle effectue en ce moment en mer de Chine méridionale. Récemment, depuis 2014, donc, il y a eu quand même une forte hausse de tensions, notamment lorsque la Chine a installé une plateforme pétrolière dans les eaux territoriales, dans des eaux revendiquées par le Vietnam, près des îles Paracel. Et pendant 3 mois, il y a donc une confrontation assez importante entre les deux pays, de très nombreuses manifestations au Vietnam et plusieurs ressortissants chinois qui sont morts lors de ces manifestations-là. Également, il y a une confrontation entre les Philippines et la Chine liée au récif de Scarborough. Mais surtout, ce dont vous avez tous entendu parler, ce sont les opérations de remblaiement qui sont très rapides et qui se font en mer de Chine. Et ces opérations de remblaiement-là, c'est important d'abord de mentionner que ce n'est pas nouveau dans la mesure où tous les pays qui ont des revendications territoriales, depuis longtemps effectuent des opérations de remblaiement et fabriquent des îles et même des infrastructures dans ces îles-là. Cependant, c'est la vitesse, le rythme auquel la Chine procède à ces opérations-là qui est très différent, beaucoup plus rapide. Et non seulement ça, mais c'est également l'approche derrière ces opérations-là. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière une approche une rhétorique qui est quand même assez conciliante, où la Chine parle beaucoup de bon voisinage, de coopération gagnant-gagnant, win-win, comme ils disent. Il y a réellement une approche assez dure où on laisse très peu de place au compromis, comme j'ai mentionné plus tôt. Donc, gérer cette situation en Asie, en mer de Chine méridionale, est quand même très, très critique parce qu'il faut garder en tête que 30% du commerce mondial passe par la mer de Chine méridionale. Et parce qu'aujourd'hui, 90% du commerce mondial continue quand même de se faire par les voies maritimes. Et donc, tout conflit dans cette région-là lié à ces disputes pourrait avoir un impact très important sur la prospérité de la région et même au-delà. Donc, quelle est la place de l'ONU ici? Il y a une question de droit international liée à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce qu'on appelle plus communément UNCLOS. D'après le droit international, les roches ou les récifs qui sont submergés à marée haute ne donnent aucune souveraineté sur des eaux territoriales, contrairement à une île. De la même façon, une île artificielle ne donne pas non plus droit à des eaux territoriales. Or, la Chine, actuellement, revendique visiblement les eaux territoriales autour des îles artificielles qu'elle a construites de façon effrénée depuis environ un an. C'est clairement donc en violation du droit international. Également, maintenant, il y a une dispute devant les tribunaux liée à ça. Donc, les Philippines, en 2013, je crois que c'était en mars ou avril 2013, les Philippines ont introduit une procédure à la Cour permanente d'arbitrage, à la Haye, contre la Chine concernant son différend territorial lié au droit maritime. La Chine n'a jamais accepté cette procédure d'arbitrage. La Cour permanente n'a pas encore remis sa décision, mais doit d'abord déterminer si elle a même la compétence de revoir le cas. Si elle détermine que oui, alors elle pourra ensuite se prononcer sur la légalité de la ligne en 9 traits de la Chine. Quelle est la ligne en 9 traits? On appelle ça plus communément « nine dash line », c'est-à-dire l'immense étendue qui est revendiquée par la Chine, demande presque toute l'étendue de la mer de Chine méridionale, ce qui, évidemment, provoque énormément de tensions avec tous les pays avoisinants qui ont des îles ou des rochers qu'ils revendiquent. Alors, il y a Taïwan, il y a le Vietnam, Malaisie, Philippines, Brunei également, qui ont leurs propres revendications et qui sont donc en conflit avec la Chine. Les conséquences de cet arbitrage-là pourraient être immenses, parce que même s'il n'y a pas les capacités de faire appliquer le jugement du tribunal, ça pourrait d'abord forcer la Chine à clarifier sa position concernant ses revendications. Ce que je veux dire par là, c'est que la Chine a toujours été très ambiguë par rapport à ses revendications, à savoir si est-ce qu'elle a des revendications qui sont maximalistes ou plutôt minimalistes, est-ce qu'elle réclame la souveraineté totale sur tout ce qu'il y a en mer de Chine méridionale. On ne le sait pas encore, ce qui évidemment provoque beaucoup d'incertitudes et de préoccupations. Donc, ça pourrait forcer la Chine à clarifier sa position. Également, la deuxième conséquence, ça pourrait, selon le résultat de l'arbitrage, selon le jugement, encourager d'autres pays à amener la Chine en cour également. Donc, dans l'immédiat, évidemment, des procédures d'arbitrage comme cela et les conventions onusiennes n'ont pas d'effet sur les disputes directes. Mais par contre, là où l'ONU pourrait possiblement avoir un effet, c'est en utilisant ses capacités d'organisation et de convocation. Je donne un exemple. Par exemple, ce que l'ONU a fait avec sa conférence internationale sur la Syrie en 2014, l'ONU pourrait organiser une conférence semblable, une conférence régionale sur la mer de Chine méridionale. Il faut dire d'abord, ce n'est pas comme si les pays de la région ne se parlent pas. Pas plus tard que la semaine dernière, la Chine et les 10 ministres de la Défense de l'Asie du Sud-Est ont discuté des questions territoriales. Cependant, il ne faut pas se leurrer. De telles rencontres, surtout avec la Chine qui est l'hôtesse de ces rencontres-là, avec un agenda qui est décidé par la Chine, disons que le terrain est quand même penché en faveur de Beijing. Donc, le but d'une telle conférence internationale, qui serait, disons, à laquelle assisteraient des médiateurs, des États observateurs également, le but serait non seulement d'encourager donc le respect d'une clause, mais trouver des solutions et arriver à une entente sur un code de conduite. En 2002, la Chine, plus les 10 pays de l'Asie du Sud-Est, ont signé une déclaration sur la conduite des parties dans la mer de Chine méridionale. dans laquelle les pays affirmaient de nouveau leur appui à UNCLOS et à un code de conduite. Donc, ça devait réellement, cette déclaration-là, être une première étape simplement vers un code de conduite qui serait plus, qui aurait force de loi, qui serait donc contraignant. Les parties sont encore loin, à l'heure actuelle, d'un accord. La Chine, la perception globale, c'est que la Chine traîne les pieds sur ce code de conduite. Donc, une conférence comme telle, une conférence de l'ONU, pourrait jouer un rôle, si ce n'est pas pour mener à un code de conduite, du moins, à tout le moins, pour clarifier les positions des différentes parties et commencer à bâtir une confiance qui fait cruellement défaut en mer de Chine. Etc. Je saute rapidement du coq à l'âne, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, c'est parler rapidement de la Corée du Nord. L'un des principaux enjeux de l'ONU et de la communauté internationale, réellement, c'est de contenir les risques de prolifération nucléaire en Corée du Nord. Il y a également des enjeux importants liés aux droits de la personne et des questions humanitaires liées à la malnutrition, par exemple. Un risque également dont il ne faut pas dont il faut prendre compte, c'est le risque d'effondrement du régime nord-coréen, qui causerait évidemment de très forts maux de tête, particulièrement au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Est-ce qu'un effondrement aujourd'hui est possible, envisageable? Bon, il faut faire attention d'abord parce que ça fait quand même de très nombreuses décennies qu'on parle d'un possible effondrement depuis les années 80, 94 surtout lorsque Kim Il-sung est décédé. Donc, il y a plusieurs prédictions qui ont été faites sur par rapport à un éventuel effondrement de la Corée du Nord. Ça ne s'est jamais avéré. Mais alors, bon, le risque quand même est toujours présent. À l'heure actuelle, la situation est quand même assez précaire en Corée du Nord, sans être nécessairement critique. Contrairement à ce que bien des gens croient, l'économie de la Corée du Nord va quand même relativement mieux à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de richesses qui se concentrent principalement à Pyongyang, où on y voit des changements assez visibles. Par contre, si un effondrement arrivait, ça pourrait être par exemple dû à un coup d'État lié aux militaires, il y aurait des millions de réfugiés. Sur une population de 24 millions d'habitants en Corée du Nord, on pourrait facilement envisager environ 5 millions de réfugiés. Et ça pourrait rapidement virer en catastrophe s'il n'y a pas de plan au préalable qui est établi. Et l'ONU a évidemment un rôle assez important à jouer de ce côté-là. Un plan d'urgence à établir. Par contre, aucune préparation ne peut être faite sans la coordination préalable avec la Corée du Sud et la Chine au minimum, qui sont les deux pays qui seraient les plus affectés par des réfugiés. Donc, c'est quand même extrêmement délicat comme question. Je vais terminer avec question de malnutrition. Le programme alimentaire mondial de l'ONU annonçait en 2014 que son programme pour la Corée du Nord allait possiblement être fermé ou à tout le moins réduit de façon assez dramatique, tout simplement parce que le programme manquait d'argent pour les besoins nutritionnels de la Corée du Nord. Pour vous donner un exemple, depuis 2004, le budget, l'aide alimentaire pour la Corée du Nord était de 300 millions de dollars par année, alors qu'aujourd'hui, seulement 50 millions de dollars par année, tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à obtenir les fonds nécessaires. C'est évident que depuis ce temps-là, il y a quand même eu une réduction des problèmes de malnutrition. On ne parle plus nécessairement de famine en Corée du Nord, mais il y a quand même de nombreuses poches, surtout les poches de pauvreté vers le nord, près de la Russie, où il y a encore beaucoup de problèmes. On parle aujourd'hui quand même de 70 % de la population qui a, d'une façon ou d'une autre, qui souffre d'insécurité alimentaire, et 25 % des enfants nord-coréens qui souffrent de malnutrition chronique. Alors, ça, c'est pour le problème de malnutrition. Il y a évidemment des questions liées à la prolifération nucléaire, où la communauté internationale a évidemment un rôle à jouer. Le problème, c'est qu'il y a déjà plusieurs sanctions qui ont été imposées à la Corée du Nord, 5 ou 6 séries de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces sanctions-là pourraient possiblement aller encore plus loin, dans la mesure où elles ne sont pas allées aussi loin que celles qui ont été imposées à l'Iran, par exemple. Cependant, ça demeure assez délicat et difficile, puisque la Chine fait partie du Conseil de sécurité et risque de ne pas appuyer des sanctions qui pourraient avoir des effets majeurs sur la Corée du Nord. Donc, je vais m'arrêter ici pour l'instant, mais tout simplement pour dire que bon, l'ONU et la communauté internationale sont quand même assez limitées pour, dans ce qu'ils peuvent faire pour les conflits en Asie de l'Est, mais il y a quand même des possibilités, des champs d'action où ils peuvent agir, non seulement en parlant, comme je vous disais, des capacités organisationnelles de la Chine, mais aussi sur différents aspects liés à la péninsule coréenne. Donc, je vous remercie.